Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Il n'y a pas d'urgence sanitaire mondiale pour l'instant face au nouveau coronavirus chinois. L'Organisation mondiale de la santé exclut à ce stade une mesure aussi radicale. Mais le sujet divise l'OMS. Les explications de Jérémy Lanche. Le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz a pris un tour très politique aujourd'hui à Jérusalem. Les Israéliens et les Américains ont durci le ton face à l'Iran. Le reportage de notre correspondant Frédéric Mettezeau. En France, nouvelle journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Demain, les syndicats tenteront de relancer un mouvement qui peine à rebondir. Demain, c'est aussi le jour où le projet de loi arrive en Conseil des ministres. Nous en parlerons avec notre invité Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection sociale. Le mystérieux coronavirus apparu en Chine est-il en train de se propager? Les autorités chinoises ont annoncé aujourd'hui un premier décès en dehors de la province de Hubei, l'épicentre de l'épidémie. Un homme de 80 ans contaminé par le virus est mort hier dans une province voisine de Pékin. Au total, l'épidémie a fait 18 morts en Chine, dont 17 dans la seule ville de Wuhan. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé a exclu à ce stade de décréter une urgence sanitaire internationale face à ce virus, mais l'OMS n'a pas une position unanime sur l'épidémie, Jérémy Lanche.
Les 15 membres du comité d'urgence de l'OMS étaient divisés après leur première réunion mercredi. Ils le sont toujours, a reconnu le français Didier Houssin, qui représente le groupe d'experts. La moitié considère que le nouveau coronavirus constitue bien une urgence sanitaire de portée mondiale, ne serait-ce qu'à cause du nombre de malades, toujours en hausse, et de la gravité des symptômes. Mais pour l'autre moitié, il est encore trop tôt. Même s'ils sont très médiatiques, les cas exportés sont peu nombreux. Et surtout, la Chine a pris des mesures fortes pour endiguer l'épidémie, en mettant plusieurs villes sous quarantaine. C'est donc cette approche qui l'emporte. Pour le moment, en tout cas, l'OMS se dit consciente de la gravité de la situation. Le comité d'urgence pourrait se réunir à nouveau dans 10 jours, peut-être moins, selon l'évolution de la situation, car le bilan, c'est une certitude, va augmenter, avec de nouveaux décès très certainement. Plusieurs personnes hospitalisées sont dans un état jugé très sérieux. Le coronavirus venu de Wuhan n'est aujourd'hui qu'une urgence sanitaire pour la Chine, a dit le patron de l'OMS, mais il peut encore devenir une urgence pour le reste du monde.
Jérémy Lanche, notre correspondant à Genève, en France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est voulue rassurante aujourd'hui. Aucun cas n'a été relevé jusqu'à présent dans notre pays. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient à Jérusalem aujourd'hui pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. 5 dirigeants ont pris la parole pour honorer la mémoire des déportés, mais certains discours ont pris un tour très politique. Frédéric Mettezeau, notre correspondant à Jérusalem, a suivi la cérémonie au mémorial de Yad Vashem.
Barbarie, extermination, inhumanité, mais aussi espoir, résurrection et responsabilité. Le souvenir de la tragédie des Juifs a bien sûr été largement évoqué, mais les Américains et les Israéliens n'ont pas hésité à faire le parallèle entre la Shoah et la crise actuelle autour du nucléaire iranien. Benjamin Netanyahou.
Je suis inquiet that we have yet to see. Parce que nous devons encore attendre une action résolue contre le régime le plus antisémite qui existe sur la planète, un régime qui cherche ouvertement à développer des armes nucléaires pour anéantir l'unique le seul État juif.
Quant à Vladimir Poutine, il a glorifié le rôle de l'armée rouge et du peuple russe sans jamais évoquer les autres pays vainqueurs. Il a multiplié les allusions aux collaborateurs, parfois polonais, parfois ukrainiens, des bourreaux.
Il y avait à leur service non seulement des nazis, mais aussi des gens de divers pays d'Europe, dans les territoires de l'Union soviétique où ces meurtres ont été commis.
Et c'est Emmanuel Macron qui a mis en garde contre toute instrumentalisation de la Shoah.
Nul n'a le droit de convoquer ces morts pour justifier quelques divisions ou quelques haines contemporaines.
Une mise en garde très claire et même osée à Yad Vashem.
Frédéric Mettezeau depuis Jérusalem. Par ailleurs, Benjamin Netanyahou et son rival politique israélien Benny Gantz se rendront à Washington la semaine prochaine. Et cela pour discuter du futur plan de paix américain pour le Moyen-Orient avec Donald Trump. Ce soir, l'autorité palestinienne rejette une nouvelle fois l'initiative diplomatique américaine, soupçonnée, je cite, de violer le droit international. Le Brexit a franchi une nouvelle étape symbolique aujourd'hui. La reine Elisabeth II a promulgué l'accord qui fixe les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est dans 8 jours, le 31 janvier, que le Brexit sera effectif. 2 jours auparavant, le Parlement européen aura lui aussi ratifié l'accord négocié entre Londres et Bruxelles. C'est une information France Culture. La Cour de cassation a rendu aujourd'hui un arrêt qui pourrait coûter des milliards d'euros à l'État. Un arrêt qui confirme que la caisse de retraite qui s'occupe des auto-entrepreneurs a systématiquement minoré leurs droits à la retraite. Cette caisse, la CIPAV, est depuis plusieurs années dans le viseur de la Cour des comptes et du défenseur des droits, car elle n'a jamais reconnu le statut particulier des auto-entrepreneurs, à savoir des droits à la retraite équivalents à ceux des autres indépendants. Cette décision de justice engage l'État, qui est censé compenser ce que la CIPAV va devoir débourser pour rembourser ses auto-entrepreneurs. Et comme il y a environ 400 000 auto-entrepreneurs, cela se chiffre en milliards d'euros. Le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, Grégoire Leclerc, appelle tous ses adhérents à aller en justice pour faire valoir leurs droits.
Moi, je résumerai assez bien la relation entre l'État et les auto-entrepreneurs par un « je t'aime, moi non plus ». L'ensemble des pouvoirs publics depuis 10 ans se sont battus de manière assez honnête et sincère pour défendre la création d'entreprises, pour motiver les gens à monter des entreprises, à verser des cotisations sociales, à contribuer à la création d'emplois. Et de l'autre, dès que les conditions financières ou les conditions d'équilibre des caisses apparaissent, alors immédiatement l'État reprend son habit de gestionnaire plutôt que de respecter les droits, hein, il s'agit clairement de respecter des droits, et malheureusement dans le cadre de la CIPAV ça touche 400 000 Français qui dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans vont voir la petite bombe exploser en ayant des points de retraite fortement minorés. Nous n'arrêterons pas de motiver nos affiliés, nos adhérents et tous les auto-entrepreneurs de France à agir en justice pour régler ce problème. C'est trop grave, c'est trop important. Alors je sais que ça engage des sommes importantes de la part de l'État et notamment du fonds de compensation, mais il faudra le faire, c'est le droit, nous sommes dans un état de droit. Les gens ont droit d'avoir leur point de retraite, ils ont contribué, ils ont cotisé pour ça.
Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, il répondait à Anne-Laure Choin et retrouvez sur franceculture.fr l'article d'Anne-Laure Choin sur les conséquences de cet arrêt de la Cour de cassation. Baroud d'honneur ou rebond du mouvement contre la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle demain à une 7e journée de mobilisation interprofessionnelle. Au même moment, le projet de loi sera examiné en Conseil des ministres. La CGT, fer de lance du mouvement, annonce une mobilisation massive et il y aura effectivement des perturbations à Anne-Laure Jumet.
Du côté des transports, la grève reprendra avec un peu plus de vigueur après 4 jours de pause relative, mais ce ne sera pas une journée noire. À la SNCF, le trafic sera normal, sur les TGV et les Ouigo, et sur le réseau transilien, il faudra compter 6 trains sur 10. À la RATP, la direction annonce un trafic très perturbé sur les lignes de métro, mais aucune totalement fermée. Du côté du trafic aérien, des perturbations à prévoir, alors qu'un syndicat de contrôleurs aériens a appelé à la grève. Ces derniers jours, d'autres secteurs avaient pris le relais. Blocage dans les ports, l'appel se termine demain soir, perturbations aux abords de centrales nucléaires ou encore manifestations devant la Bibliothèque nationale de France. La BNF qui a d'ailleurs décidé de fermer ses portes aujourd'hui. L'intersyndicale se réunit demain matin à 8h pour décider de la suite. Une réunion qui se tiendra avant même la manifestation parisienne qui démarrera exceptionnellement le matin à 11h pour coïncider avec la présentation du projet de loi en Conseil des ministres.
Anne-Laure Jumet, merci. On va maintenant revenir sur le contenu de cette réforme des retraites avec l'invité de ce journal, Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale. Bonsoir.
Bonsoir.
Bruno Chrétien, peut-on encore parler de régime universel avec les concessions faites par le gouvernement à un certain nombre de professions comme les policiers, les pilotes de ligne ou bien les danseurs de l'opéra ?
Alors l'objectif du gouvernement, c'est effectivement ce régime universel, ce système universel de retraite. Sauf que comme on va avoir une mise en place qui va se faire sur une période de transition très longue, hein, puisque jusque, par exemple, en 2037, on va avoir les catégories qui sont nées avant 75 et qui vont conserver les droits des anciens régimes, par exemple. Donc on va déjà avoir le maintien des 42 régimes qui existent à ce jour. Et puis on va avoir aussi, comme vous l'avez souligné à juste titre, des droits dans des régimes qui ont obtenu dans le nouveau système des dispositions particulières pour conserver leurs particularités. Alors on a, par exemple, le régime du personnel navigant qui a des contraintes internationales d'âge de départ à la retraite. Voilà, donc on va conserver une caractéristique pour ce régime. On va en conserver d'autres également. Donc à la fois, en rythme de croisière, on n'aura pas un seul régime, on en aura plusieurs. Et dans la période transitoire, on va se retrouver dans une situation paradoxale qui fait qu'on aura au final plus que les 42 régimes actuels.
S'agissant des régimes autonomes comme celui des avocats, là aussi, il y a quelque chose qui remet en cause le principe même de la réforme ?
Quelque part, puisque alors pour les avocats, les choses ne sont pas tranchées, hein, ça fait partie des populations qui aujourd'hui protestent très fortement contre ce projet. Les avocats ont une caractéristique par rapport aux autres professions libérales, c'est qu'ils ont un régime de base qui n'est pas commun aux autres régimes de profession libérale et surtout qui organise une très forte solidarité avec les avocats les plus modestes. Il y a un régime qui est vraiment très solidaire et il perdrait un niveau de pension, notamment au détriment des avocats les plus modestes qui ont des carrières les moins rémunérées. Donc là encore, on verra bien ce qu'in fine choisira comme voie le gouvernement, mais il y a fort à penser que s'il rentre aussi, on ne voit pas pourquoi il ne rentrerait pas comme d'autres catégories dans le régime universel, alors la conséquence, c'est qu'il faudra aménager un dispositif particulier. Donc, en quelque sorte, on a un régime universel, mais qui devient de moins en moins universel, avec en plus une vraie problématique au niveau des régimes autonomes, qui sont pour une bonne part des régimes de profession libérale et d'entrepreneurs, qui est qu'ils ont des régimes qui sont financièrement équilibrés, qui ont des réserves. Donc, l'intégration dans le régime universel, en plus, pour la plupart d'entre eux, et le gage d'une baisse de rendement. Donc on comprend effectivement que ces populations s'interrogent.
Bruno Chrétien, est-ce que cette réforme aboutit finalement à une sorte de centralisation du dispositif de notre système de retraite ?
Alors je pense même que c'est plus que centralisation. Je pense que l'analyse qu'on en fait, c'est qu'on a un dispositif qui en quelque sorte est une étatisation, une nationalisation, on appellera ça comme on le souhaite. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette réforme, finalement, vous avez trois réformes qui s'enchassent. Vous avez une première réforme qui est le régime par points. Le régime par points, c'est un dispositif qui est globalement plus lisible, qui est un système qui a ses avantages, qui a aussi quelques inconvénients, il ne faut pas les nier, mais qui a quand même pas mal d'avantages. Et surtout, ce système par points, il va permettre cette mise en place de ce dispositif, mais en 2037, hein, puisqu'avant, on n'en verra pas, on n'aura pas les premières pensions liquidées. Ensuite, on a une réforme qui est une réforme liée à l'âge d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on substitue le système actuel, qui est un système lié en fait à une durée d'assurance, avec une condition d'âge aussi, hein, puisqu'on part à la retraite à 62 ans, mais on a le taux plein si on a tous les trimestres, et on part aussi dans le nouveau système sur une logique tout à fait différente, qui est une logique d'âge de départ. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, vous serez sanctionné ou vous serez récompensé en fonction de la manière dont vous vous positionnez par rapport à l'âge d'équilibre. Si celui-ci, in fine, est celui de 64 ans, par exemple, eh bien, quel que soit votre nombre de trimestres, vous aurez une retraite qui sera défalquée de 5% si vous partez à 63 ou de 10% si vous partez à 62 ou majorée, à l'inverse, de 5% ou 10% si vous partez à 65-66. Donc ça, c'est un changement de perspective assez important. Troisième point qui n'a pas, à notre sens, été très mis en avant et pourtant, c'est, je pense, le cœur de la réforme, c'est la prise en main, en quelque sorte, de l'ensemble des régimes, et notamment des régimes gérés par les partenaires sociaux, qu'ils soient patronaux, syndicats de salariés, donc dans le cadre du paritarisme classique, ou qu'on soit des partenaires sociaux professionnels, hein, typiquement les indépendants, les professions libérales. Et là, on a un système dans lequel l'État va tout de suite mettre la main sur les réserves et le nationaliser. Comment ? C'est pas très compliqué. En fait, le texte de loi prévoit au 1er décembre, un dispositif dans lequel on a la création, au 1er décembre 2020, de la Caisse nationale du régime universel, la CNRU, où ce sera un fonctionnaire qui sera nommé à sa tête. Immédiatement, cette caisse a la possibilité de bloquer toute décision des autres régimes dès lors qu'elle ne va pas dans le sens de la convergence. Donc concrètement, ils pourront bloquer un projet informatique, ils pourront bloquer des évolutions en termes de points de ces régimes autonomes ou complémentaires.
Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le parquet antiterroriste se saisit après la découverte d'explosifs dans un appartement à Épinal. Un couple a été interpellé. L'homme est fiché S, proche du groupuscule islamiste Forsan Alitsa, dissous en 2012. On l'apprend ce soir, une démission dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Jérôme Peyrat, conseiller politique issu de la droite à l'Élysée, a démissionné de son poste début janvier, cela pour raison personnelle. En fait, Jérôme Perra a expliqué à l'AFP qu'il faisait l'objet d'une enquête préliminaire dans le cadre d'une dispute dans sa vie privée. Jérôme Perra, ancien conseiller des présidents Chirac et Sarkozy, était en charge à l'Élysée des relations avec les élus locaux. La météo demain, ciel toujours pluvieux sur les régions méditerranéennes. Le département de l'Aude reste en vigilance rouge pour le risque de crue. Les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange. Ailleurs, le ciel sera maussade sur l'ouest et le nord. À l'est, le soleil finira par s'imposer. Les températures minimales seront comprises entre moins 4 et 11 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales en hausse évolueront entre 4 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.